Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur à Offel.
Alors bonjour, rebonjour Armel et Pepo Odigan.
Oui, bonjour, bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Vous êtes des grands habitués de ce festival, on vous retrouve presque tous les ans.
Oui, pratiquement chaque année. Oui, on est venu sous différentes formules, spectacles, contes en épisodes. Et là, on reprend la formule l'instant de cigane.
Nous sommes sur le festival depuis 2001.
Ah oui,
quand même.
Ah oui, ça fait plus de 20 ans que vous venez.
Oui, c'est ça.
Vous venez avec votre caravane et on peut vous retrouver tous les jours pour l'instant de cigane. C'est vers 19h15 à peu près.
C'est à 19h15.
Oui, après le conte en épisode de Luigi Rignanese.
Et tous les jours, on a le droit à une petite histoire avec un peu de musique. C'est ça un peu le principe ?
Oui,
le principe, c'est être ensemble avant tout, partager. Et c'est deux histoires.
Deux histoires.
Et beaucoup de musique.
Et la musique, et beaucoup de musique.
je me demandais, comme on parlait des bardes là, dans la culture celtique, dans le jeu du dictionnaire, il y a un mot pour désigner les conteurs, les conteuses en langue tzigane ?
Moi, j'en connais pas, mais je parle très peu la langue tzigane. C'est surtout Pepo, le spécialiste.
Oui. Alors, le conte, c'est Paramicha.
Paramicha.
Paramicha. Ouais. Donc, c'est Paramichando. C'est quelqu'un qui est un raconteur. Et puis après, le musicien, c'est celui qui joue. Alors, je dis Gili, c'est chanter. Et mais Amé Bachav, je joue. Amé Bachav, accordéon. Je joue d'accordéon.
On a beaucoup l'image des tziganes qui jouent de la musique. Mais les histoires, c'est très présent dans cette culture.
Les histoires, elles sont présentes, mais pas sous forme de contes et légendes, comme on le voit dans les festivals. En fait, on parle beaucoup. On raconte tout, les anecdotes de chaque jour, tout est commenté, tout est enjolivé, tout est re-raconté autrement. Si la petite anecdote plaît, elle va être embellie. Voilà, un motif d'un conte peut très bien venir un fait divers, et un fait divers devient un conte. Voilà, il n'y a pas une limite comme ça, c'est compliqué. Et parfois, on nous dit « Oui, mais ça, c'est pas un vrai conte tzigane. » Non, nous, on est dans la vraie vie avec tout le monde. Donc, une histoire qui nous plaît, enfin, je parle pas pour nous deux, mais toute la communauté. Un enfant, par exemple, peut l'entendre à l'école ou dans un livre. Il la ramène, il la raconte à la maison. L'histoire plaît. Elle est racontée dans la communauté. Et puis après, elle est racontée par nous aussi. Parce qu'une fois, l'enfant a voulu qu'on la mette en musique. Et puis, elle est devenue à ce qu'on la raconte. Mais c'était un conte du monde entier. Enfin, voilà, c'est un peu des choses comme ça qui se mettent en boucle. Et puis, elle est vraie. Pour ceux qui demandent, les vrais contes tziganes qui sont issus de l'oralité, voilà, qui sont très peu collectés ou collectés et déformés. Donc, nous, on a quand même la force de la connaissance de notre communauté pour pouvoir... Il n'y a pas de version exacte, hein, parce que chaque famille a sa version, en fait. Chaque individu a sa perception du monde. Et ça, chez nous, c'est très présent. On a tous raison. Dans chacun notre perception du monde.
Puis comme Armel a dit, on est dans l'oralité. Peu de gens chez nous savent lire. Maintenant, les nouvelles générations savent lire. Mais beaucoup de mon âge ne savaient pas lire. Ils ne savent toujours pas lire. Moi, je le sais. Mais du coup, on est dans l'oralité. Et les histoires se transmettent par l'oralité. Le soir, comme ça, au coin des veillées, par les hommes, par les femmes. C'est essentiellement l'oralité.
Oui, quand on arrive... Oui, enfin quand on se retrouve quoi.
Donc c'est sûr, ce sont des anecdotes aussi qui arrivent et qui sont agrandies, qui sont grossies, qui sont déformées, qui sont racontées de génération en génération par la suite, et ça devient de vraies histoires quoi.
Et qu'on retrouve collectées par d'autres dans des livres. Enfin, c'est marrant la version qu'ils donnent alors qu'on sait le point de départ de l'histoire.
Du coup, à chaque fois qu'on raconte la même trame d'histoire, elle change, c'est jamais la même en fait.
Exactement, ouais. Puis il y a des familles qui vont dire ben, moi, ça m'est arrivé, alors que c'est arrivé à son arrière-grand-père en fait. Mais on le prend au présent. Et c'est très vrai, ça, c'est très souvent. Puis à chaque famille, il y a la même histoire qui lui est arrivée. Alors que c'est arrivé à une famille il y a 100 ans ou 50 ans.
Et vous, les histoires que vous racontez, c'est, euh, c'était inspiré de choses qui vous sont arrivées dans la vie de tous les jours, ou c'est aussi mélangé avec ces histoires que vous avez entendues des anciens de...
Oh, il y a certains qui nous sont arrivés, oui.
Oui, il y a certains qui sont arrivés. Il y a des histoires de famille, des histoires de collectage. Il y a, voilà. Moi, j'ai pris toute cette matière pour faire, en fait, notre questionnement était autour de nos spectacles. On ne peut pas faire un spectacle fourre-tout, donc il faut qu'on pense à une thématique. Quelle est notre intention pour ce spectacle-là? Donc on va le nourrir de différentes histoires, collectées, familles. Qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence, hein? Pour chaque spectacle, on a ce questionnement-là pour pas que ça fasse redite. Parce que si c'est fourre-tout, on met un petit peu de tout à chaque fois. Et puis là, on fait des contes plus légers, comme on fait à reprendre ici en extérieur dans la caravane. Et puis on a des contes, on a tout un spectacle sur la cosmogonie tzigane. C'est des contes qui ne sont absolument pas connus. On en a fait un en ouverture, Prorok et le dieu Tempête. Mais personne ne sait même que Prorok existe. Quoi. Mmh. Voilà. Donc,
Il y a beaucoup aussi la thématique du voyage qui revient dans ces histoires.
Alors c'est la thématique du voyage, oui, parce qu'on est de cette communauté, mais pas forcément dans les contes, parce que beaucoup de voyageurs ne voyagent plus, même s'ils ont encore l'esprit et l'essence du voyage dans leur cœur, dans nos gènes et dans tout, mais c'est compliqué. Et puis on est quand même un peuple à s'adapter à la vie qui arrive de l'instant présent, donc on n'est pas dans des gestes ou dans des rituels du passé. On est aujourd'hui, donc ce qu'on a été il y a 100 ans, c'est différent de ce que c'était il y a 1000 ans, et c'est encore différent. C'est une histoire qui nous pousse à avancer. Et donc la question c'était, est-ce que j'ai fait une petite transgression
si, là. Pour le voyage.
Ça veut dire que les histoires ne parlent pas toutes de voyage, mais par contre les histoires ne parlent pas de maison, d'appartenant à une terre, c'est pas des contes paysans. L'important c'est l'autre. La vie ensemble, aller regarder, oui, être dans c'est les échanges humains.
Oui, les rencontres.
Ouais. Okay. Après, l'impression de voyage, c'est beaucoup parce que bah, y a le fantasme du public qui pense que voilà, les tziganes, c'est des voyageurs. Mais il faut bien savoir que 80% des tziganes de par le monde sont sédentarisés depuis très longtemps. Il n'y a vraiment qu'en France, Belgique, Italie, de moins en moins, en France, de moins en moins aussi. Suisse qui a des voyageurs un petit peu en Espagne, mais après tout les pays de l'Est, ce sont des gens qui vivent en maison et qui n'ont pas voyagé depuis longtemps. Par contre, ce qui nous anime, c'est quand même que du jour au lendemain, on peut partir avec la famille et s'installer ailleurs. C'est ça qui fait, c'est qu'on a ça dans le sang. Et le plus important pour nous, finalement, c'est quand même d'être en famille. Alors, où que nous soyons, tant qu'on est en famille, tout va bien. Et, et on peut partir sur un coup de tête. C'est pas parce que de fois on nous dit oui, c'est le nomadisme. Alors c'est un faux terme parce que le nomadisme, c'est quelqu'un qui pousse un troupeau. Donc il va aller là où il y a des pâturages plus verts pour ses bêtes. Nous, on peut aller n'importe où. Ça nous toque, on s'en va.
On peut changer. On dit qu'on n'a pas de pays, la tziganie, ça n'existe pas. Donc on dit que notre famille, c'est notre pays. Donc quand on est en famille, on est chez soi.
Il y a 5 ans, nous étions dans le sud, on habitait dans le sud, on avait un terrain là-bas. On a décidé de partir, on a tout vendu, on est parti avec les enfants.
Et qu'est-ce que vous faites tout le reste de l'année quand vous n'êtes pas ici au festival? Vous faites des spectacles
on
tout le
temps? Ailleurs.
On est ailleurs sur d'autres festivals. sur d'autres festivals en France et à l'étranger. Et, voilà. Et on a eu des belles grandes rencontres avec le Québec, hein, où il y avait avec les Premières Nations, les Autochtones, il y a eu un peu des questionnements autour de la culture. Ils disaient que si on n'est pas descendant de Premières Nations, on n'a pas le droit de raconter. C'était dit ça il y a 2 ans.
Oui, c'est leur problématique.
Parce que d'autres prennent leur terre, prennent leur culture et ne sont pas du tout issus. Et donc, il y a eu vraiment un gros veto. Et donc, on était invités autour de ce questionnement. Et en Europe, les familles de voyageurs qui sont issues, qui ne sont pas... Ça n'existe pas. On a tous, depuis la nuit des temps, on est quand même un peuple à bouger, à commercer, à aller vers l'autre. Donc de tous les temps, l'amour a fait qu'on a rencontré des personnes hors la communauté et puis qui ont épousé la communauté. Et donc on ne sait pas. Moi, mon père, c'était un gadjo. Mais voilà, j'ai eu par ma mère et je me sens voyageuse, mais je me sens aussi citoyenne du monde. Dire cette notion-là, on l'a quand même gommée et on n'est plus... Il y a 20 ans, hein, on avait encore ça chez nous. Il fallait montrer certains artistes. Manu, je disais, moi, mon père, du grand-père, ça remontait jusqu'au camp d'internement. Quoi. Si tu n'avais pas été interné, presque... Donc il y a eu quand même des choses qu'on en a parlé, on a discuté, parce que le but, c'est quand même de faire connaître notre culture. Donc si c'est sclérosé, si c'est un conte à soi, ça ne rayonne pas, et notre essence même de vivre dans le monde avec les autres se perdrait. Donc voilà, c'était vraiment résumé, je ne sais pas si je suis très claire, mais...
Si, si. Alors, vous faites des spectacles toute l'année, mais vous ne faites pas que des spectacles. Je me rappelle à Royer d'avoir une exposition de linogravure.
Oui,
de
oui,
Pépot,
oui, oui. Oui. Oui, j'ai fait de la linogravure. Enfin, je me suis mis à la linogravure il y a 5-6 ans.
Covid.
Pendant le Covid, oui, c'est ça. Et bah, ça a perduré et ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai fait des expositions à Royer, notamment. Puis au Québec aussi, et j'ai créé aussi un jeu de tarot en linogravure qu'ensuite on a fait imprimer en couleur et tout, et là on vient de sortir un petit grimoire qu'on voudrait faire éditer, mais pour l'instant c'est vraiment artisanal, donc ce sont plus des carnets d'artistes que de vraiment du livre, quoi. Et voilà, parce qu'Armel par ailleurs fait des carnets d'artistes aussi. D'accord. Donc on a plein de choses. Puis je fabrique aussi des
reliures. De la reliure, c'est-à-dire que vous faites de la reliure, Armel?
Non, moi c'est pas de la reliure. Mon point de départ, c'est la teinture végétale pour vieillir des papiers, enfin donner un autre aspect que le papier. Donc j'ai travaillé au début beaucoup sur des papiers de récup, puis après, donc même des papiers de récup, avant ils étaient anciens, bon mes stocks s'étaient épuisés, donc des papiers de récup de tout, dont par exemple à la fin du jour du festival, il reste les gazettes, il reste des affiches, moi je vais en prendre un carton, et puis je les mets dans mes teintures végétales, les encres vont se dissoudre, je vais les retravailler autrement, les déchirer, les teinter. Et je fais des carnets, ça s'appelle les carnets de poche de Madame Pavlova. Et c'est vraiment là, quand je m'occupe en dehors du festival, les mains ont besoin d'être actives pour réfléchir. Et puis on a eu des... Ben, l'année dernière, Pepo il a sorti son jeu de tarot et tout le monde demandait mais comment tirer les cartes. Donc là, j'ai fait un mode d'emploi.
Ah.
Donc il y a comment apprivoiser son jeu et puis les symboles qu'on retrouve dans le jeu de tarot de Marseille, avec fait plus pour une lecture avec les cartes de Pepo. Et j'ai testé, ça fonctionne. Hein. Vous mettez vos quatre cartes, vous ouvrez, vous avez votre lecture pour vous.
Parfait.
Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, c'est du tarot de cartomancie. Enfin de,
oui. Divinatoire.
Divinatoire, voilà, c'est pas pour jouer aux cartes.
Oui.
Si on veut voir ce tarot, ces carnets, on peut. C'est dans la caravane,
ouais,
que ça se passe.
Ouais, vous pouvez venir,
il y a
toute une
petite exposition ésotérique là, sur les porte-bonheur, c'est là. Et là, juste avant de venir, d'une famille est rentrée, il y avait des enfants, 7, 8 ans et 9, 10. Et ils étaient subjugués, ils regardaient, ils trouvaient tout beau. Vu que le petit gars était vraiment attiré par certaines choses. Il doit avoir un don, je n'ai pas dit, pour ne pas appeler sa mère, mais vraiment, il fera quelque chose.
J'aimerais bien qu'on finisse avec une petite histoire, accompagnée par un peu d'accordéon. Hop, on met le micro en place. Et je vous laisse la parole.
Il était une fois. Il était une fois un vieux fleuve. Il était une fois un vieux fleuve qui allait goutte à goutte sur le chemin de terre sèche. Et ce vieux fleuve ronchonnait et rouspétait. Il voulait aller de l'autre côté, passé cette étendue de terre. Et la petite voix qui fait le tour de la terre lui a dit « Laisse-toi aller. Arrête. Arrête de ronchonner, de rouspéter. Goûte l'air, laisse-toi aller, retrouve un parfum oublié. Envole-toi. » Et le vieux fleuve ronchonne et rouspète. Lui, il veut retrouver sa fougue de sa jeunesse. Lui, il était un fleuve où il y avait des beaux bateaux, aux lumières multicolores qui portaient des gens qui buvaient champagne. Sur les rives, on l'acclamait, on l'applaudissait, on bondissait, on plongeait, on allait explorer ses fonds avec mille tendresses. Et là, il se retrouve, vieux fleuve, goutte à goutte. Il ira de l'autre côté, il retrouvera la fougue de sa jeunesse et la petite voix de la terre qui lui murmure « Laisse-toi aller, fais confiance au vent léger, envole-toi !» Et le vieux fleuve rouspète et bougonne. Il repense du temps où des arbres se penchaient à sa surface pour le caresser quand il passait sous les ponts des grandes villes. Il dit « Ma route a toujours été tracée, dirigée. Je sais où je vais traverser cette terre brûlante. Laisse-toi aller. Laisse-toi emporter par le vent, retrouve un parfum léger. » Le vieux fleuve s'est arrêté de ronchonner, de bougonner, de rouspéter. Retrouver un parfum léger, un parfum oublié. Il est devenu silence. Il s'est laissé emporter par le vent léger, tourbillonné. Et la petite voix sur la terre a murmuré, « Tiens, de l'autre côté de la montagne, un fleuve va bientôt naître. La source va bientôt apparaître. Allez sur le monde. »
Bravo, bravo, merci beaucoup, merci. Armelle et Pepo. Alors, je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les soirs pendant la durée du festival à 19h15. C'est devant la caravane, vous ne pouvez pas la rater.
C'est ça, exactement. Merci infiniment.
Merci mille fois, c'était magnifique. Et puis, sûrement l'année prochaine, alors.
Oui, l'année prochaine.
Et oui, et vous m'avez dit aussi hors antenne que vous aviez une petite émission de radio. Comment s'appelle votre émission ?
Qu'est-ce que tu racontes ?
Et c'est sur quelle radio ?
Radio Dynamo.
Radio Dynamo.
Sur Leblanc et Argenton dans le 36.
Eh bah parfait. Et voilà, c'est dit. Au revoir.
Au revoir, bye. Merci beaucoup.
Je passe un petit jingle et on passe à la suite de cette midinale sur Radio Vassivière. Raphaël.
Oui.
Alors, vas-y Constance, introduis.
Oui, j'ai raté mon lancement. Non, je crois que tu as tout dit. En fait, on retrouve Raphaël qui va nous faire, je crois que tu vas nous faire visiter le musée Rigolo.
Alors oui, je vais essayer de vous faire visiter le petit musée Rigolo de Zébéric.
Il faut savoir qu'il est en mode...
Zébéric, pardon.
Il est en mode envoyé spécial.
Exactement.
Avec un HF, il va y aller en live.
Donc, alors oui, je vais faire attention en passant devant l'enceinte, c'est ça. Vous allez avoir un beau Larsen. Donc allez, je me lance et donc je m'approche. Donc c'est la tente voisine du studio et on entre et je tombe. Ah, quelle chance, je tombe sur Monsieur Zébéric. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors voilà, une nouveauté cette année, le petit musée Rigolo. Donc on est dans une tente, dans un des barnums du festival. Et alors c'est comment on pourrait décrire ça, une sorte d'une exposition fourmillante de tableaux, de sculptures, de petits mots partout. Et vous allez nous expliquer un petit peu.
Oui, effectivement. Donc c'est une collection d'objets insolites Je crée chaque dimanche un objet soit en lien avec l'actualité ou à partir d'expressions de la langue française. Donc j'ai un lieu d'exposition qui est dans le Cher. Et puis là, j'ai eu le plaisir d'être invité au festival de Vassivière pour lequel j'avais eu un grand coup de cœur il y a 3 ans. Et donc voilà, j'ai le plaisir d'accueillir bien sûr gratuitement tous les visiteurs, tous les festivaliers, de présenter mes objets détournés.
Alors je crois que vous êtes ce qu'on peut appeler de manière vraiment très précise un artiste du dimanche.
Exactement, puisque je crée donc l'objet rigolo du dimanche que les auditeurs peuvent retrouver sur Internet, soit sur Facebook, Instagram ou sur Google en tapant petit musée rigolo. Et chaque dimanche, je fais un objet. Je viens d'en faire un, malheureusement, là, au sujet de la mort d'Alain Delon. Et puis, très récemment aussi, au sujet des Jeux Olympiques avec un Ken Léon Marchand qui est exposé donc au Festival de Contes.
Oui, alors c'est ça, on a parlé d'objets, mais alors il s'agit aussi beaucoup de mots, puisque en fait chaque œuvre, c'est à la fois un objet et un jeu de mots.
Tout à fait, j'essaye de travailler sur le sens propre et le sens figuré. Notamment, j'ai une série de machines, par exemple une machine à se retourner dans sa tombe, une machine à tordre la vérité, une machine à tuer le temps. Et j'aime bien interagir en fait avec les spectateurs, et puis les enfants aussi s'amusent beaucoup avec ces expressions de la langue française.
Voilà, vous prenez une expression, vous la tordez, vous en faites une représentation parfois très littérale, comme voilà, une machine à se retourner dans sa tombe. Alors, malheureusement, elle n'est pas fonctionnelle, celle-ci, mais il y a un petit cercueil qui est dans une. On peut le tourner avec une manivelle. Voilà, donc, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut produire. Le temps suspendu.
Donc, le temps suspendu représente en fait une corde de fil à linge avec 3 épingles et donc des montres qui sont suspendues sur ce fil. Et puis juste à côté, il y a la manif de casseur. Là, c'est des heures cassées, des horloges avec des aiguilles un peu déstructurées.
Alors, on est quelque part entre Topor, Dali, Magritte, je ne sais pas, c'est quoi?
Oui, exactement. Voilà, vous avez cité trois sources d'inspiration. Également, les objets détournés. C'est un catalogue d'objets introuvables de Karel Mann qui date des années 80, et lui, c'est un très bon dessinateur. Il dessinait plutôt des ustensiles improbables. Et voilà, ça m'a aussi beaucoup inspiré.
Alors, c'est un univers. Alors, je citais Topor pour le côté un peu trash, des fois, parce que vous n'avez pas peur d'aller dans des choses. C'est pas forcément pour tous les âges. En tout cas, voilà, on peut en avoir plusieurs lectures. Vous aimez bien y aller à fond, quoi, c'est ça?
Oui, exactement. Il y a des tableaux qui sont vraiment corrosifs. C'est une façon aussi de mettre un peu à distance des fois des sujets de société compliqués. Mais vraiment, en fait, toutes les visites se passent bien. Il y a un petit coin aussi pour les enfants. Les festivaliers qui viendront et les auditeurs qui viendront, voilà, découvriront les objets avec... Il faut se munir de son humour noir.
Oui, d'ailleurs, je disais, c'était trash. Alors, pour les enfants, il n'y a pas de souci. C'est souvent le rapport entre le texte et l'image. Il faut déjà comprendre le jeu de mots. Il n'y a rien de visuellement choquant. Dans cette exposition. Alors là, par exemple, on a Kiki n'est pas parti en vacances. Voilà, un squelette de chat attaché à un arbre.
Voilà, c'était une façon pour moi de dénoncer, bien sûr, l'abandon d'animaux. Mais c'est un objet très visuel. Pour expliquer, j'ai trouvé en fait ce squelette de chat. Bien sûr, ce n'est pas le mien. Hein. C'est un squelette en plastique venant d'un magasin d'Halloween. Voilà, et je l'ai attaché effectivement à un arbre. C'est un objet qui fait vraiment aussi rire les enfants.
Alors, comment on en vient à être artiste du dimanche et fabricant d'objets détournés?
Alors, en fait, j'ai commencé il y a 15 ans en participant à une grande brocante dans mon village, la Borne. Et j'ai commencé à mettre des légendes sur les objets. Ça a fait rire les passants. Ensuite, j'ai créé un petit barnum. Et c'était donc une sorte de happening une fois par an. Ça a duré 4 ans. Et ensuite, je me suis lancé le défi de créer un objet tous les dimanches. Et à ce moment-là, j'ai créé une page Facebook et un site Internet. Et ensuite, en 2015, un véritable lieu d'exposition qui est entre Bourges et Sancerre, donc ce village d'artistes qui s'appelle La Borne.
Alors, on parlait un peu des enfants tout à l'heure. Je crois que c'est aussi désormais une affaire de famille, puisque Zébréric a été rejoint par...
Exactement, par Zébre Nils. Donc, c'est mon petit garçon. On était dans une brocante. On cherchait des idées sur la sécheresse. Et puis, il a tout simplement retourné une canne. Il m'a dit, tiens, papa, un parapluie quand il ne pleut pas. Donc, on l'a mis en tableau, vous pourrez le découvrir sous la tente. Et puis également, mes filles m'ont fait des objets pour la fête des pères. Notamment, on a le plus beau papa du monde qui est inscrit sur une planisphère.
Voilà, donc c'est vraiment une activité pour toute la famille, petits et grands. Vous allez un peu essayer de répandre un peu cette activité dans le monde entier.
Pourquoi pas, effectivement, les réseaux sociaux permettent de diffuser, de faire voyager les objets. Moi, je suis vraiment très content de ce lien avec le festival de Vassivière autour des jeux de mots. Voilà, on se rencontre autour de l'amour de la langue et puis il y a une très, très belle ambiance sur ce festival et de très belles réactions des festivaliers.
Alors, dernière petite question, on a parlé des mots, les objets, ce n'est pas n'importe quels objets. C'est souvent un peu des objets du patrimoine industriel, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, il y a des vieux jeux qu'on connaît tous en plastique, des planisphères, des ventouses. Comment vous chinez un petit peu pour découvrir ces objets?
Oui, je fréquente beaucoup des brocantes. Il y a une recyclerie à côté de chez moi, c'est mon meilleur fournisseur. Et effectivement, c'est un peu de l'upcycling, c'est un mouvement pour prendre des objets du quotidien, comme vous l'indiquiez, et puis les transformer et leur donner un autre sens.
Bah écoutez, on va inviter toutes les visiteuses, les visiteurs du Festival du Conte et puis ceux qui sont autour à venir faire une petite visite au petit musée rigolo de Zébréric.
Très bien, avec plaisir et je vous accueille avec le sourire.
Et ben voilà, écoutez, je vais finir là ce reportage. Au revoir Zébréric. Je vais retourner au studio pour pouvoir rendre le micro et passer la parole à mes collègues qui vont faire la suite de la midinale. Constance.
Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur à Offel.
Celui dont je veux vous parler là, je pense que vous le connaissez, mais pas comme nous, Tchandekalai. Sur tous les canaux d'Occitanie, cet homme-là, c'est une vraie légende. La force du lion, la générosité à fleur de peau, mais la cervelle de moineau. Il a déjà dépensé tout son argent pour faire enterrer un mort qui avait été jeté au fossé. Il a navigué, il s'est marié, il a navigué de nouveau, il a été jeté par-dessus le bastingage d'un bateau. 7 ans, il s'est réfugié sur un rocher battu par les flots sur le chemin de nulle part. Puis un grand oiseau blanc d'une espèce inconnue l'a secouru. Et un jour, il lui a proposé un pacte. Tchandekalai a accepté. Il n'avait pas le choix. C'est alors que l'oiseau a planté ses griffes dans sa tignasse de naufragé, dans sa barbe de 7 ans. Et qu'il l'a porté comme ça, au-dessus de la mer. À l'aube, il l'a déposé à la pointe du môle de la ville blanche. Puis il s'est dissous dans le soleil levant. C'était l'heure où, le long de la jetée, les pêcheurs débarquaient les caisses de poissons. Ils se sont figés au passage de ce grand escogriffe couvert d'algues où on entendait tinter des coquillages de rivages lointains. Sur le quai, c'était l'heure où les poissonnières avaient installé les étals. Elles avaient allumé le feu sous les marmites pour accueillir la soupe de poisson. Quand elles l'ont vu apparaître, elles ont ouvert grand les yeux, mais ce qu'on y lisait, c'était pas de la peur. Non. Elles étaient émues.
Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur.
Vous imaginez ces mégères aux bras forts comme des trônes de chêne.
Alors, Fabien,
rompu à toutes les émotions qu'on invitait comme pleureuses aux enterrements,
sur le cinéma voyageur,
la moitié de la ville.
Il faut savoir que la date du 23 août à la Villa
est jusqu'aux larmes.
Elle aura lieu le samedi 24 août, toujours à partir de 18h. Voilà, n'hésitez pas,
c'était
vous y rendre
si
nombreuses et nombreux.
Depuis toujours. Elles sont allées le prendre par la main, elles l'ont fait allonger sur un étal. Elles ont préparé.
Et comme il nous reste un peu de temps, il nous reste 10 minutes, et ben justement, on va passer un conte assez court, une dizaine de minutes, qui a été enregistré hier par Fabien pendant les siestes comptées.
Et elles se sont mis à l'ouvrage,
de Serge Valentin,
en fredonnant la chanson
d'un certain Tchandekalai.
La chanson sucrée, la chanson sacrée qu'on murmure aux nouvelles accouchées. Et racle que tu racleras, et taille que tu tailleras, et frotte, et gratte, et décrotte. À la première goutte de sang, leur ouvrage était accompli. Elles avaient devant elles un homme neuf, débarrassé de sa gangue océane. Elles l'ont entouré d'un drap blanc. Lui s'est relevé, a ouvert les bras, a regardé le ciel et il a poussé un long cri. On le reconnaît maintenant. Et la nouvelle de son retour parcourt les pavés de la basse ville. Elle escalade la colline, elle parvient là-haut dans les beaux quartiers jusqu'à la Maison Blanche. Dame Calaï! Oh, Dame Calaï! Ah! Ton homme, il est revenu de son naufrage. Eh oui, ma belle! Indemne! Elle? Elle a pris la main de l'enfant. Elle est descendue à sa rencontre, suivie des voisins qui emportaient le costume de cavalier, le chapeau à panache et l'épée de Jean de Calaï, et suivie aussi de quelques timbales qui couraient en disant « Oh, les Camarguaises, oubliez pas les Camarguaises, c'est les bottes qui font le cavalier !» Pendant ce temps, lui, Jean de Calaï, il remontait, accompagné par la foule du port, à sa rencontre. Dès qu'ils se sont vus, ils ont couru un vers l'autre, ils ont refermé les bras sur leur bonheur. Et voilà qu'elle s'est retirée, qu'elle a laissé place à l'enfant. Et elle est tombée en amour devant le tableau du père et du fils qui se découvraient pour la première fois du regard. Seulement le peuple s'impatientait. On était passé se munir de rames, de crochets, de fouines, de partègues. On a fait vêtir Jean de Calaï. On l'a placé à la tête du cortège. Pendant ce temps, Deir, l'ami, le traître qui l'avait poussé à l'eau il y a 7 ans et qui avait terrorisé la ville. Lui, avec ses voyous, ils avaient aiguisé les couteaux. Ils avaient passé le costume noir, les bottes brillantes. Quand ils sont arrivés sur la place de la maison commune, où leur mariage forcé de la soi-disant veuve de Jean de Calaï devait avoir lieu. La foule s'est mise à les huer, mais Deir, le traître, les a toisés avec arrogance. Il avait l'habitude de terroriser la ville. Et voilà que son regard a croisé celui de Jean de Calaï. Et cette fois, il a perdu toute contenance. Jean de la Ville Blanche, cet homme est un imposteur. J'ai vu de mes propres yeux, mon ami Jean de Calaï se noyait accidentellement en mer il y a 7 ans. Et quant à sa veuve, c'est librement qu'elle m'épouse. N'écoutez pas les ragots, laissez-nous passer. C'est alors que la voix de Jean de Calaï a roulé comme le tonnerre. Jean de la Ville Blanche, vous me reconnaissez, j'ai grandi parmi vous. Cet homme est le traître qui m'a poussé à l'eau il y a 7 ans. Et depuis, l'intrigue pour me voler ma femme et mon bien. Je vous demanderai juste d'arbitrer notre combat aujourd'hui. Autour de Deir, on a vu luire les lames des couteaux. Jean de Calaï a mis la main à la poignée de l'épée. Et c'est au même moment qu'un oiseau blanc, d'une espèce inconnue, est venu se percher sur le toit de la maison commune. Il a ouvert les ailes et il a dit « Jean de la Ville Blanche, je suis venu de l'au-delà pour vous dire que Jean de Calaï est dans son bon droit. Je ne veux pas qu'il ait à se battre pour le prouver. À ce moment-là, Dair avec ses voyous se sont enfuis par la porte de la ville, suivi de la moitié des habitants de la ville dans une colère meurtrière. Alors l'oiseau a ouvert de nouveau ses ailes et il a parlé. Jan Nikolai, tu te rappelles de notre pacte ? Tu te rappelles que tu devais me donner la moitié de ton trésor le plus cher pour que je te ramène ici ? Juste à temps, Jan Nikolai dit, oiseau, bien sûr que je m'en rappelle. Et ma dette, je te la paierai. Même si ça me coûte cher. Mon trésor le plus cher, le plus précieux, c'est ce petit garçon que tu vois là. Mais je ne veux pas le partager avec toi. Je veux te le confier tout entier. Je sais que tu seras un bon maître. Jan Nikolai, tu as dit ce que tu devais, c'est bien. Ta dette, il y a longtemps qu'elle est payée. Je suis l'âme du pauvre mort que tu as sauvé de l'infamie il y a bien longtemps. Garde ton fils, je veillerai sur lui de loin. Garde ta femme, soyez heureux. Mon histoire a été comme une vague. Elle se retire de la plage. À vous d'y chercher les coquillages.
Donc d'écouter un conte enregistré dans le cadre des siestes contées qui ont lieu tous les jours au festival de paroles de conteurs à 14h. Je vous invite à venir, c'est un petit temps calme à l'extérieur où tout le monde est allongé, écoute les contes. Il y a plein d'autres trucs, il y a des chapiteaux, il y a aussi les scènes ouvertes. Donc il ne faut pas hésiter à venir, le festival se tient à Offel près du lac de Vassivière du 17 au 24 août. Et c'est la fin, là on termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir, mais je dis aussi au revoir à Fabien.
Merci, merci, au revoir.
Et à Raphaël. Et je remercie...
On n'a pas entendu le au revoir de Raphaël sur le micro bleu, le micro bleu.
Le micro bleu, le micro bleu. le fil bleu, Didier.
Il fait des pièges, il change de micro.
Aïe, aïe, aïe. Au revoir.
Au revoir, du coup, au revoir, Raphaël.
Et merci à Didier.
Et merci à Didier qui a la technique, qui se mélange un peu les pinceaux parfois, mais qui est là tous les jours.
Il commence à faire chaud, il commence à faire très chaud sous la tente.
On a la chance d'être à l'ombre jusqu'à 13h, 13h15, et après, là, c'est au soleil, et là, on commence à être dans une chambre de sudation.
Les pains commencent à peu près à partir de 13h10, quoi. C'est pour ça que ça devient un peu approximatif.
Donc, bah, merci en tout cas de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain pour un nouveau direct depuis le festival Paroles de Conteurs à Offel. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur les ondes de Radio Vassivière.
Ciao, ciao.
Salut.